Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles, ne mettez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, donc nous en sommes toujours dans le grand traité sur l'incarnation. Et d'abord, Incarnato, à la question 48, article 5. Est-il propre au Christ d'être le Rédempteur? Donc, toujours dans ces questions concernant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont des questions extrêmement importantes, avec des choses magnifiques. Alors, nous en sommes donc à cette question, article 5. Donc, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Il cite saint Paul aux Galates, « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant pour nous malédiction. Or, seul le Christ est devenu pour nous malédiction, donc seul il peut être appelé notre Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ, et donc l'unique Rédempteur en dehors duquel personne ne peut être sauvé. Pourquoi ? Mais il va expliquer, parce que le prix de notre rédemption, c'est le sang du Christ, ou sa vie corporelle qui est dans le sang, et c'est le Christ lui-même qui l'a payé. Il s'ensuit que l'acte du paiement et le prix du paiement appartiennent immédiatement au Christ en tant qu'homme. Ils appartiennent aussi à la Trinité tout entière comme à leur cause première et éloignée. Mais, il résume, il est propre au Christ en tant qu'homme d'être le Rédempteur d'une manière immédiate, mais la rédemption elle-même peut être attribuée à la Trinité comme à sa cause première. Donc, le Christ en tant qu'homme est Rédempteur, mais n'oublions pas que le Christ en tant qu'homme est uni au Christ en tant que Dieu, puisque la deuxième personne de la Sainte Trinité a une double nature. Il est homme et Dieu. Donc, on peut ramener la rédemption à la Sainte Trinité elle-même. Article 6, encore un article important. La passion du Christ a-t-elle produit les effets de notre salut par mode d'efficience? Toujours dans la question 48 de la Tertia Pars. La cause mode d'efficience, ça veut dire mode d'origine. Donc la passion du Christ est-elle à l'origine du salut du monde? La réponse est évidemment positive. La vertu de Dieu produit notre salut par efficience. La cause efficiente principale du salut des hommes est Dieu. Mais l'humanité du Christ étant l'instrument de sa divinité, il s'ensuit que toutes les actions et les souffrances du Christ agissent instrumentalement en vertu de la divinité pour le salut des hommes. À ce titre, la passion du Christ cause le salut des hommes par efficience. Donc tout vient de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un texte extrêmement important. Même si cet article est court, il est important. Ensuite, nous passons à la question 49 sur les effets de la passion. Encore une fois, beaucoup de choses très importantes, notamment l'article 1er de cette question 49 de la Tertia Pars. Par la passion du Christ, sommes-nous délivrés du péché? Ce sont des articles très importants pour avoir des idées claires là-dessus contre le protestantisme et le modernisme. Donc le Christ nous a-t-il délivrés du péché par la passion? Il est évident que la réponse est positive. Il cite l'Apocalypse, saint Thomas cite l'Apocalypse, il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans son sang. La passion du Christ est la cause propre de la rémission des péchés. Et il explique que cette cause propre de la rémission des péchés agit de trois façons différentes. D'abord, première raison, première manière, par mode d'excitation à la charité. Et il va citer saint Paul aux Romains, « La preuve que Dieu nous aime, c'est que dans le temps nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Or, par la charité, nous obtenons le pardon des péchés. » Il cite saint Luc, à propos de sainte Marie-Madeleine, « Ses nombreux péchés lui ont été remis parce qu'elle a beaucoup aimé. » Donc la passion du Christ étant la plus belle façon de prouver que quelqu'un homme aime quelqu'un d'autre, donc Dieu prouve son amour pour les hommes d'abord par sa passion, évidemment, eh bien c'est une excitation à la charité. Deuxième manière, par laquelle la passion du Christ est cause propre de la rémission des péchés, par mode de rédemption. Pourquoi ? Parce que le Christ est notre tête. Par la passion, dit saint Thomas, par la passion qu'il a subie, en vertu de son obéissance et de son amour, il nous a délivrés de nos péchés, nous qui sommes ses membres, comme si sa passion était le prix de notre rachat. C'est comme si un homme, au moyen d'une œuvre méritoire accomplie par sa main, se rachetait du péché commis par ses pieds. Une autre comparaison qu'on utilise souvent en prédication, imaginez quelqu'un qui est en prison, qui ne peut pas sortir, parce que pour sortir de prison, eh bien, il faut payer une grosse somme au juge. Sinon, il ne vous laisse pas sortir. Et le prisonnier, ben, c'est nous. Celui qui garde la prison, ben, c'est le démon. Eh bien, en quelque sorte, il faut payer une grosse somme pour pouvoir sortir le pécheur que nous sommes de la prison dans laquelle il s'est mis lui-même par le péché. Et notre Seigneur Jésus-Christ, constatant que nous sommes incapables de payer par nous-mêmes, parce que nous n'avons pas les fonds pour cela, notre Seigneur Jésus-Christ paye par lui-même. Une autre image, qui est une image qu'on retrouve dans beaucoup d'anciens missels, qui est très belle aussi. Les anciens croyaient, je crois que c'est faux d'ailleurs, mais enfin ils croyaient quand même, que le pélican, la maman pélican, lorsqu'elle avait plus de quoi nourrir ses enfants, s'ouvrait avec son bec, elle ouvrait son cœur pour que le sang coulant de son cœur puisse nourrir ses enfants. Bon, c'est faux sur un plan zoologique, sur un plan naturel, mais c'est quand même une idée qui est belle. De même, dit saint Thomas, que le corps naturel est un, alors qu'il consiste en membres divers, l'Église tout entière, corps mystique du Christ, est comptée pour une seule personne avec sa tête qui est le Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que tête de l'Église, par sa passion, nous a délivrés du péché. Troisième manière par laquelle la passion du Christ est la cause propre de la rémission des péchés, par mode d'efficience. Donc par mode de charité, par mode de rédemption, par mode d'efficience. Pourquoi ? Parce que la chair dans laquelle le Christ a souffert sa passion est l'instrument de sa divinité. C'est en raison de sa divinité que ses souffrances et ses actions agissent dans la vertu divine en vue de chasser le péché. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ peut nous sauver tout simplement. Il va nous sauver par ses souffrances humaines. Il ne peut pas souffrir en tant que Dieu. Mais ses souffrances humaines ont de la valeur dans le sens, à cause plutôt de que cette humanité est unie à la divinité dans la personne du Christ. Donc, par sa passion, le Christ nous a délivrés de nos péchés par mode de causalité. Pourquoi ? Elle institue en effet la cause de notre libération, cause par laquelle peuvent être remis à tout moment n'importe quel péché présent ou futur, comme un médecin qui ferait un remède capable de guérir n'importe quelle maladie, même dans l'avenir. Donc la passion du Christ, conclut saint Thomas, est la cause préalable de la rémission des péchés. Mais, attention, il est pourtant nécessaire qu'on l'applique à chacun pour que ses propres péchés soient effacés. Cela se fait par le baptême, la pénitence et les autres sacrements qui tiennent la vertu de la passion du Christ. C'est-à-dire Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son humanité, souffre la passion pour sauver les hommes par sa divinité. Et pour pouvoir utiliser les grâces qui viennent de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il y ait une communication entre notre âme et notre Seigneur Jésus-Christ, sinon rien ne peut être fait. Et cette communication se fait par la vertu de charité. Donc c'est dans la mesure où on est lié, on communique avec notre Seigneur Jésus-Christ par la vertu de charité, c'est-à-dire l'état de grâce, c'est dans cette mesure que l'on peut utiliser grâce qui vient de la passion. Hélas, beaucoup de gens refusent de se mettre en état de grâce et donc ne peuvent pas utiliser les grâces de la passion. Passons à la question 49 d'Intersiapars, article 2. Par la passion du Christ, ça nous délivrait de la puissance du démon. Encore un article capital. Donc, je vous donne le texte. Pour les articles importants, je donne le texte complet du corps de l'article. Donc, la passion du Christ nous délivre-t-elle de la puissance du démon ? Alors voilà ce que répond saint Thomas. Le diable exercé sur les hommes avant la passion du Christ, trois points de vue entrant en ligne de compte. Bon. Premièrement, celui de l'homme qui, par son péché, a mérité d'être livré au pouvoir du péché dont la tentation l'avait dominé. Bon. Deuxième ligne de compte, celui de Dieu, celle de Dieu. Deuxième point, c'est la ligne de compte de Dieu que l'homme avait offensé en péchant, qui en vertu de la justice l'avait abandonné au pouvoir du diable. Et enfin, troisième point de vue entrant en ligne de compte, celui du démon, qui par sa volonté très perverse empêchait l'homme d'atteindre son salut. Donc il y a l'homme, Dieu, le démon. Bon. Ensuite, il va reprendre ça dans la deuxième partie du corps de l'article. Par rapport à l'homme, donc l'homme a été délivré du pouvoir du démon par la passion du Christ en tant que celle-ci est cause de la rémission des péchés. Par rapport à Dieu, elle nous a délivré du pouvoir du démon en tant qu'elle nous a réconciliés avec Dieu. Donc la passion nous réconcilie avec notre Créateur. Et enfin, par rapport au démon, la passion nous a délivré du pouvoir du démon en tant que celui-ci a dépassé la mesure du pouvoir que Dieu lui avait accordé en complotant la mort de Christ qui n'avait pas mérité la mort puisqu'il était sans péché. Donc il y a les conséquences, si vous voulez, de la passion au niveau de l'homme, au niveau du démon bien sûr, mais aussi au niveau de Dieu. Donc on ne dit pas, saint Thomas précise, on ne dit pas que le démon a eu pouvoir sur les hommes au point qu'il aurait pu leur nuire sans la permission de Dieu, mais il lui était permis en toute justice de nuire aux hommes qu'il avait amenés et en les tentant à lui obéir. Donc Dieu permet, dans sa sagesse, au démon de nous tenter, mais il limite les pouvoirs du démon parce qu'il ne veut pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Encore maintenant, aujourd'hui, le démon peut, avec la permission du bon Dieu, tenter les hommes dans leurs âmes et les tourmenter dans leur corps. Cependant, il trouve dans la passion du Christ un remède préparé pour qu'il se protège contre les assauts de l'ennemi en évitant d'être entraîné dans le désastre de la mort éternelle. Avant la passion du Christ, donc tous ceux qui résistaient au démon le pouvaient grâce à leur foi en la passion du Christ, quoique cette passion ne fût pas accomplie. Donc les anciens, avant notre Seigneur Jésus-Christ, le peuple hébreu par exemple, avant notre Seigneur Jésus-Christ, étaient sauvés par la foi au Christ à venir. Mais ils ne pouvaient pas aller au ciel tout de suite puisque le ciel était fermé. Le ciel n'a été ouvert que par la passion du Christ. Voilà. Après la descente aux enfers de l'âme du Christ juste après sa mort. Nous verrons ça plus tard. Alors saint Thomas se pose la question de savoir si par la passion du Christ, nous nous sommes délivrés de l'obligation du châtiment. Et donc il va répondre, saint Thomas va répondre en utilisant une prophétie d'Isaïe. Il a pris nos maladies, il a porté lui-même nos douleurs. Donc par la passion du Christ, nous avons été libérés de l'obligation de la peine due au péché. Et ceci de deux façons. D'abord, directement, parce que la passion du Christ a été une satisfaction adéquate et surabondante pour les péchés de tout le genre humain. Or, dès que la satisfaction adéquate est fournie, l'obligation de la peine est enlevée. Mais aussi indirectement, en tant que la passion du Christ est la cause de la rémission du péché sur lequel se fonde l'obligation de la peine. Alors, saint Thomas va expliciter les choses dans la réponse. Une réponse à une objection. La passion du Christ, dit-il, obtient son effet sur ceux à qui elle est appliquée par la foi et la charité et par le sacrement de la foi. Donc surtout par le baptême, bien sûr, parce que c'est le baptême qui donne la charité, mais aussi par le sacrement qui va rendre la charité à celui qui l'a perdu, à savoir le sacrement de pénitence. Mais les damnés qui sont en enfer ne sont pas unis par les sacrements à la passion du Christ et donc ne peuvent recevoir et percevoir les effets de cette passion du Christ. Il faut donc que ceux qui pêchent après le baptême soient configurés au Christ souffrant par une pénalité ou par une souffrance qu'ils subissent en eux-mêmes. Cependant, cette peine suffit, tout en étant beaucoup moindre que ne le réclamait le péché à cause de la satisfaction du Christ qui agit pour, avec elle. Donc, en quelque sorte, notre Seigneur Jésus-Christ a payé presque la totalité de la peine du péché par sa passion. Mais il nous demande une collaboration, une coopération. On peut expliquer avec un bel exemple dans la vie de Saint Jean-Marie Vianney, Saint curé d'Ars. Donc, parfois, il confessait des pécheurs qui ne s'étaient pas confessés depuis très longtemps, qui avaient de très gros péchés sur la conscience. Et puis, à la fin de la confession, après avoir dit ce qu'il avait à dire, il donnait une pénitence. Et que la pénitence que donnait le Saint-Curé là, ce n'était pas toujours très forte. Et donc, il y a parfois des gros pécheurs qui étaient très contents de cette confession, mais qui disaient au Saint-Curé là, « Mais mon père, j'ai fait beaucoup, beaucoup de péchés, vous me donnez une pénitence trop faible. » Et Saint-Curé là répondait toujours de la même façon en disant, « Le reste, je m'en occupe moi-même. » Et c'est lui qui faisait pénitence pour les pécheurs. Donc, si la satisfaction du Christ a ses effets en nous, c'est en tant que nous sommes incorporés au Christ, comme les membres à leur tête. Cette incorporation se fait par la vertu de charité. C'est pour ça qu'il est tellement important de rester en état de grâce. Si je ne suis pas en état de grâce, je ne peux pas utiliser les effets de la passion du Christ. Alors, par la passion du Christ, nous sommes donc comme réconciliés avec notre Créateur. Nous sommes réconciliés, c'est ce que dit Saint Paul aux Romains, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc la passion du Christ est vraiment la cause de notre réconciliation avec Dieu. D'abord en tant qu'elle écarte le péché, par lequel les hommes sont constitués ennemis de Dieu, mais aussi en tant qu'elle est un sacrifice souverainement agréable à Dieu. Et donc, on rend Dieu propice. Pour cela que la fin première de la messe, c'est ce qu'on appelle la fin propitiatoire, la fin qui nous rend de nouveau agréable à Dieu. Si le Christ a souffert volontairement, ce fut d'un si grand bien, parce que cette souffrance volontaire, que Dieu, à cause de ce grand bien trouvé dans la nature humaine, est apaisé au sujet de toute offense du genre humain pour tous ceux qui s'unissent à la manière qu'on a indiquée au Christ qui a souffert. Donc, la manière indiquée, c'est la vertu de charité. Donc, Dieu aime dans tous les hommes la nature humaine que lui-même a faite et a prise, mais il les hait quant à la faute commise contre lui. Donc la passion de Christ a supprimé toute cause de haine, aussi bien en enlevant le péché qu'en le compensant par un bien plus agréable. Donc on dit en conclusion avec saint Thomas que la passion de Christ a été plus puissante pour réconcilier Dieu avec tout le genre humain que pour provoquer sa colère, on peut dire d'une façon différente, de la passion de Christ pour les hommes manifeste encore davantage la miséricorde de Dieu pour le pécheur pénitent que sa justice contre le pécheur qui ne veut pas se convertir. Donc là, encore une fois, la plus belle preuve de l'amour de Dieu pour nous, c'est la passion du Christ. Bon, par cette passion du Christ, qu'est-ce que va faire notre Seigneur? Non seulement il va effacer nos péchés, il va nous permettre par la vertu de charité d'utiliser ses grâces pour effacer nos péchés, les grâces de la passion pour effacer nos péchés, mais il va ouvrir aussi les portes du ciel. Il cite saint Paul aux Hébreux. Nous avons l'assurance d'entrer au sanctuaire par le sang du Christ. Donc le péché empêche d'entrer dans le royaume du ciel, qui est ce sanctuaire divin. Pour de façon, d'abord, voilà ce que dit saint Thomas, le péché qui empêche d'entrer dans le royaume du ciel est de deux sortes. Premièrement, l'un est le péché commun à toute la nature humaine, c'est le péché originel, le péché du premier homme, du premier père Adam. Par ce péché, l'entrée du royaume céleste était fermée à tous les hommes. N'oubliez pas ce qui est dit dans le livre de la Genèse, qu'après le péché d'Adam, Adam a été obligé de quitter le paradis terrestre, et Dieu plaça un chérubin avec un glaive de feu tournoyant pour garder le chemin de l'arbre de vie et empêcher l'homme de revenir. Deuxièmement, le péché qui empêche d'entrer dans le royaume du ciel est le péché spécial à chaque personne, ce qu'on appelle le péché personnel. C'est le péché que chaque homme commet par son acte personnel. Donc il y a deux péchés, en quelque sorte, qui nous ferment la porte du paradis. Un péché général de nature, qui est le péché originel, et un péché particulier, qui est le péché mortel personnel. Or, dit saint Thomas, la passion du Christ, non seulement, par la passion du Christ, non seulement nous avons été délivrés du péché commun à toute la nature humaine, à savoir le péché originel, et quant à la faute, et quant à l'obligation de la peine, lui-même en payant le prix à notre place, mais encore nous sommes délivrés des péchés personnels et individuels de chacun de ceux qui communient sa passion par la foi et la charité et par le sacrement de la foi. Mais il répète toujours la même chose pour bien nous faire comprendre la chose. C'est-à-dire, ce sont par les sacrements qui donnent la foi et la charité, qu'il ne peut pas y avoir de charité sans foi, donc c'est par la vertu de charité qu'on a accès aux conséquences de la passion. Donc la passion du Christ nous a bien ouvert les portes du royaume céleste. Donc, cependant, la foi ni la justice de personne ne suffisaient pour enlever l'obstacle produit par la culpabilité de toute la race humaine. Cet obstacle n'a été enlevé que par la rançon du sang du Christ. Aussi, avant la passion du Christ, personne ne pouvait entrer dans le royaume céleste en obtenant la béatitude éternelle qui consiste en la jouissance plénière de Dieu. Il a fallu que Dieu envoie son Fils qui accepte de mourir pour nous sur la croix pour que les portes du ciel puissent être réouvertes. Donc la passion, c'est la conclusion de saint Thomas. Par sa passion, le Christ nous a mérité l'entrée du royaume céleste et en a écarté l'obstacle, mais par cette ascension, il nous a introduit dans la possession de ce royaume. Alors, j'ai oublié de vous dire que dans le polycopier, pour ceux qui ont polycopié devant eux, donc vous avez tout cela à partir de la page 154 dans le polycopier. Est-ce par la passion que le Christ a obtenu son exaltation dans la gloire? Donc ça, c'est la question 49, article 6. Donc la réponse, évidemment, est positive. Il va citer saint Paul aux Philippiens. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix, et c'est pourquoi Dieu l'a exalté au-dessus de tous les hommes. Donc le Christ, dans sa passion, donc saint Thomas va répondre donc à cette question, est-ce que c'est par la passion que le Christ a obtenu son exaltation dans la gloire, et voilà ce qu'il dit. Il dit que le Christ dans sa passion s'est abaissé au-dessous de sa dignité de quatre façons. Premièrement, quant à sa passion et à sa mort, qui ne lui était pas due puisqu'il n'est pas le péché originel. Quant au lieu, car son corps a été déposé dans le sépulcre et son âme est descendue aux enfers. Troisièmement, quant à la confusion et aux opprobres qu'il a subis. Et quatrièmement, quant au fait qu'il a été livré à un pouvoir humain. Voyez-vous ce qu'il a dit à Pilate? Vous n'auriez aucun pouvoir sur moi si nous avait été donné d'en haut. Donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ s'est abaissé ainsi, donc, notre Seigneur Jésus-Christ a mérité d'être exalté dans la gloire de quatre manières proportionnellement à ces quatre manière par lesquelles il s'est abaissé au-dessous de sa dignité. Son abaissement volontaire entraîne sa gloire. Bon, premièrement, quant à sa résurrection glorieuse. Deuxièmement, quant à son ascension au ciel. Et troisièmement, quant à sa cession à la droite du Père et la manifestation de sa propre divinité. Cession à la droite du Père, ça veut dire quand il s'est assis à la droite du Père. S'asseoir en latin, c'est cédérer. Donc, la cession à droite du Père, notre Seigneur Jésus-Christ, donc, après sa résurrection glorieuse et son ascension au ciel, va s'asseoir à la droite du Père. Et saint Thomas rajoute, donc, une quatrième raison, puisqu'il y a quatre manières par lesquelles le bon Dieu s'est abaissé au-dessus de sa dignité. Quatrièmement, quant au pouvoir judiciaire, dans le sens qui, c'est ce qu'il dit dans Job, au chapitre 36, votre cause a été jugé comme celle d'un impie, vous recevrez toute cause et tout jugement. Donc pour ces quatre raisons, notre Seigneur Jésus-Christ a obtenu son exaltation dans la gloire. On peut vraiment méditer tous ces textes pendant le temps de la Passion. « Alors, par ses mérites antérieurs, le Christ a mérité l'exaltation glorieuse de son âme, dont la volonté était informée par la charité des autres vertus. Mais dans sa passion, il a mérité l'exaltation glorieuse de son corps par mode de récompense. Alors, nous passons maintenant donc à la question 50, toujours dans ces questions importantes sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La question 50 va traiter de la mort du Christ. Question 50, article 1. Comment venait-il au Christ de mourir? Évidemment, dans son humanité, puisque dans son divinité, il ne pouvait pas mourir. Alors, il va citer Saint Jean. Il est bon qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation ne périsse pas. C'est une sentence, une phrase, de Pilate, pardon, de Caïphe, qu'il avait prononcée de façon prophétique. Donc, il convenait au Christ de mourir. Et saint Thomas d'Aquin va donner 5 raisons. D'abord, pour satisfaire pour le genre humain qui était condamné à la mort à cause du péché. Notre Seigneur l'avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre, vous mourrez de mort. Donc le Christ est bien mort une fois, une seule fois, pour nos péchés. Saint Pierre, chapitre 3. Deuxièmement, le Christ devait mourir également pour prouver la réalité de la nature humaine qu'il avait prise. Bon. Si après avoir vécu avec les hommes, il s'était échappé subitement, par exemple, en disparaissant, en évitant la mort, tous seraient pris pour un fantôme. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix pour prouver aussi son humanité. Troisièmement, notre Seigneur Jésus-Christ, il convient à notre Seigneur Jésus-Christ de mourir pour nous délivrer, en mourant, de la crainte de la mort. Et quatrièmement, pour nous donner l'exemple en mourant corporellement à la similitude du péché, c'est-à-dire à la pénalité de mourir spirituellement au péché. Il va citer saint Paul aux Romains, s'il est mort au péché, il est mort une seule fois, et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi, vous, estimez-vous mort au péché et vivant pour Dieu. On ne peut pas vivre en Dieu sans mourir d'abord au péché. Enfin, cinquième raison pour laquelle il convenait au Christ de mourir, pour montrer, dit saint Thomas, en ressuscitant des morts, la vertu par laquelle il a triomphé de la mort et nous inculquer l'espoir de ressusciter des morts. Donc la résurrection des morts de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de Pâques, est la plus grande preuve de sa divinité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette mort? La question se pose. Est-ce que par la mort du Christ, sa divinité a-t-elle été séparée de sa chair? Donc, c'est-à-dire, au moment où il y a eu la séparation entre le corps et l'âme de notre Seigneur, il est mort sur la croix. Donc, au moment de sa mort, il y a séparation entre son corps et son âme, sinon il n'y aurait pas de mort. Est-ce que le corps d'un côté et l'âme de l'autre, est-ce que le corps et l'âme du Christ sont toujours unis avec la divinité, même après la mort? Eh bien, saint Thomas va répondre positivement. Le corps du Christ, à la mort, n'a donc pas été séparé de la divinité. Ensuite, il va expliquer la grâce d'union, en vertu de laquelle la divinité a été unie à la chair du Christ dans la même personne, dépasse de beaucoup la grâce d'adoption en vertu de laquelle nous sommes sanctifiés. Elle est même plus permanente de sa nature parce que cette grâce est ordonnée à une union personnelle, tandis que la grâce d'adoption est ordonnée à une union d'affection. N'oublions pas qu'on peut perdre cette grâce d'adoption, qui est la grâce sanctifiante, alors que notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas perdre cette grâce d'adoption par laquelle, je veux dire, notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas perdre la grâce d'union par laquelle il y avait dans la personne du Christ l'union entre la divinité et l'humanité. Donc, après la mort du Christ, la personne de la chair du Christ n'a pas été autre que la personne du Verbe de Dieu. Il utilise le mot hypostase, mais c'est la même chose. Après la mort du Christ, l'hypostase de la chair du Christ n'a pas été autre que l'hypostase du Verbe de Dieu. Alors, continuons d'avancer dans ces articles magnifiques dont je vous donne l'essentiel. Encore une fois, je vous conseille beaucoup, pour tous ceux qui ont le texte de saint Thomas, d'aller directement au texte pour tout lire. Article 3 de la question 50. À la mort du Christ, la divinité a-t-elle été séparée de son âme? Eh bien, c'est la même réponse. De même que le corps n'a pas été séparé de la divinité, de même l'âme du Christ n'a pas été séparée de la divinité. Il cite Saint Jean Damascène. Bien que le Christ soit mort comme homme, et que sa sainte âme se soit séparée de son corps non soumis à la corruption, sa divinité demeurait inséparable de l'un et de l'autre, de son âme et de son corps. Donc le corps qui est resté dans le tombeau du vendredi saint au dimanche de la résurrection était toujours uni à la divinité. Et l'âme du Christ, qui est descendue dans les enfers, on va voir ça après, dans les enfers pour visiter dans le sein d'Abraham le lieu où attendaient tous les justes de l'Ancien Testament, cette âme du Christ qui est descendue là était aussi unie avec la divinité de notre Seigneur. Donc notre Seigneur, Jésus-Christ, était toujours uni à la divinité, même après la séparation de son corps et de son âme. Alors il explique, puisque le Verbe de Dieu n'a pas été à la mort séparé du corps, il a été encore moins séparé de l'âme. Les deux choses sont liées. Ensuite, il précise, le corps et l'âme du Christ ont existé au même titre dès le principe dans l'hypostase du Verbe, et dans la mort, quoique divisés l'un et l'autre, ils sont restés chacun avec la même et unique hypostase du Verbe. C'est-à-dire, dans la personne, la divinité était toujours unie avec l'humanité. Et je veux dire, la divinité était toujours unie, c'est ça, avec l'humanité. Dans le corps et dans l'âme du Christ, les deux. Alors, question 50, toujours de la TSEPAS, article 4. Durant les trois jours de sa mort, le Christ est-il resté homme? Alors, il va répondre, pendant les trois jours de sa mort, le corps du Christ ayant cessé d'être vivant et animé, il s'ensuit qu'il n'était plus homme, homme dans le sens d'homme vivant, il était devenu un cadavre. Bon. Et après, il précise d'ailleurs ce qu'il veut dire en disant, le Christ, pendant ces trois jours, a été un homme mort. Bon, c'est comme, si vous voulez, si devant un tombeau dans un cimetière, vous posez la question, est-ce que la personne qui est enterrée là est un homme? Donc, l'homme, c'est l'union d'un corps et d'une âme. Or, dans le tombeau, il n'y a que le corps, il n'y a pas l'âme. Donc, strictement parlant, il manque quelque chose pour qu'on puisse dire que l'homme qui est enterré devant nous est un homme, que la personne qui est enterrée devant nous est un homme. Donc, c'est une façon de parler. En fait, il manque la divinité, il manque l'humanité. Je veux dire, il manque à cette humanité, au cadavre qui est devant nous dans le tombeau, il manque l'âme. Et après la résurrection générale, à la fin du temps, le corps et l'âme seront de nouveau réunis pour tous les hommes. Donc, ce qui a cessé d'exister, dit saint Thomas, c'est l'union de la chair et de l'âme, du corps et de l'âme. Alors, article 5, y a-t-il identité numérique entre son corps mort et son corps vivant? Ces questions sont importantes pour lutter contre le modernisme. C'est que les modernistes, entre autres bêtises, disent que le Christ ressuscité n'est pas le même que le Christ qui est mort sur la croix le vendredi saint. Ils disent que le Christ qui est ressuscité, c'est le Christ mystique qui n'est pas le même que le Christ humain, le Christ en tant qu'homme qui est mort sur la croix le vendredi saint. Alors que la foi catholique nous enseigne que c'est exactement le même Christ. Les modernistes disent celui qui est ressuscité d'entre les morts n'est pas le même Christ qui est mort le vendredi saint. Pourquoi? Parce que ce Christ qui est ressuscité d'entre les morts, c'est le corps mystique du Christ et c'est ce qui vit en nous par la grâce. Attention, c'est le même corps, c'est le même Christ. Donc il y a identité numérique entre le corps vivant du Christ et son corps mort. Le corps qui avait été vivant, le même que celui qui est mort. Le corps du Christ vivant et mort a le même suppôt, car vivant et mort, il n'y a eu d'autres personnes que celles du Verbe, d'autres hypostases que celles du Verbe. Bon, je passe sur cette question un peu plus philosophique, je ne donne pas tous les détails. Ensuite, article 6, toujours dans la question 50 de l'article de la Tertia Pars, saint Thomas se pose la question suivante, la mort du Christ a-t-elle contribué à notre salut? Et donc il répond évidemment positivement, la mort du Christ est cause de notre salut. On a déjà vu ces questions de façon un petit peu différente. Il explique, donc la mort de Christ a détruit en nous la mort de l'âme produite par notre péché et la mort du Christ a aussi détruit la mort du corps produite par la séparation de l'âme. Donc la mort a été engloutie dans la victoire. Il s'est livré à la mort à cause de nos péchés. La mort du Christ n'a pas produit notre salut par mode de mérite, mais elle l'a pourtant produite par mode déficient, dans le sens que notre Seigneur est cause de notre propre résurrection et sortie du péché. Ensuite, on passe à la question 51, l'ensevelissement du Christ. Donc, on suit maintenant toutes les étapes dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous verrez que le grand traité donc, sur le Verbe incarné va après se continuer avec la résurrection de notre Seigneur, puis son ascension et la montée au ciel. La montée au ciel et la Pentecôte. Donc, l'ensevelissement du Christ, question 51, article 1 de la question 51, convenait-il au Christ d'être enseveli? Et donc, saint Thomas d'Aquin va répondre en trois points. Voilà ce qu'il dit. Il convenait que le Christ soit enseveli pour prouver la réalité de sa mort, prouver la réalité de son humanité. Pour cela, qu'on lit dans saint Marc que Pilate, avant de permettre que le Christ soit enseveli, s'assura par une enquête soigneuse et rigoureuse qu'il était bien mort. Bon, on ne peut pas mettre au tombeau un corps si on n'est pas certain de la réalité de la mort. Donc, il convenait que le Christ soit enseveli d'abord pour prouver la réalité de sa mort. Deuxièmement, afin de donner par sa résurrection du sépulcre l'espoir de ressusciter par lui à ceux qui sont dans un tombeau. Il cite saint Jean, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme et ceux qui l'auront entendu vivront. Et enfin, troisième raison pour laquelle il convenait que le Christ soit enseveli, afin de donner l'exemple à ceux qui, par la mort du Christ, meurent spirituellement au péché. Et ici, saint Paul, aux Colossiens, vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Nous avons été ensevelis avec le Christ dans la mort par le baptême. C'est saint Paul aux Romains. Vous voyez, on voit que saint Thomas d'Aquin était imprégné d'Écriture sainte. Saint Thomas d'Aquin est aussi grand en tant qu'exégète qu'en tant que théologien. C'est ça qui est extraordinaire chez saint Thomas. C'est vraiment un saint polyvalent. Question 51, article 2, le mode de l'ensevelissement du Christ. Alors, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Il indique trois raisons qui justifient la manière dont le Christ a été enseveli. D'abord, pour confirmer la foi en sa mort et sa résurrection. Deuxièmement, pour louer la piété de ceux qui l'ont enseveli. Et enfin, pour instruire par ce mystère ceux qui sont ensevelis avec le Christ dans la mort. Donc c'est avec louange, dit saint Augustin, qu'on mentionne dans l'Évangile ceux qui ont pris soin d'envelopper et d'ensevelir avec sollicitude et honneur le corps du Christ descendu de la croix. Donc c'est Nicodème qui revient pour descendre notre Seigneur Jésus-Christ de la croix, le Seigneur Jésus-Christ qui est mort, et la déposer dans le tombeau. Donc, ainsi, le mode de d'ensevelissement du Christ est bien précisé dans l'Évangile. Et alors saint Jérôme donne le sens mystique de cet ensevelissement. Et ça, c'est très beau. Ça, encore une fois, là, on trouve l'exégèse des pères de l'Église. Celui-là enveloppe Jésus dans un linceul propre qui le reçoit dans un cœur pur. De là vient que l'usage est établi dans l'Église de célébrer le sacrifice de l'autel, non pas sur des linges de soie ou de couleur, mais sur des linges de lin, comme le corps du Christ a été enseveli dans un linge blanc. Donc on retrouve, si vous voulez, les trois étapes. Le linge utilisé par la Très Sainte Vierge Marie pour emmailloter son enfant nouveau-né le jour de Noël. Le linge utilisé par Nicodème pour recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et l'envelopper, le linceul donc de Turin pour l'envelopper avant de le déposer dans la tombe. Et enfin, troisième étape, le sacrifice de la messe, renouvellement non sanglant du sacrifice de Calvaire, eh bien, qui est célébré aussi sur une nappe, il y a trois nappes en fait, les trois nappes d'autel sont en lin blanc. Et en plus de ça, sur ces trois nappes, on met également un corporal sur lequel on dépose le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce corporal est également fait de lin. Donc le Christ est enseveli dans un jardin, précise saint Thomas, afin de symboliser que par sa mort et sa sépulture, nous sommes libérés de la mort que nous avons encourue par le péché d'Adam commis dans le jardin du paradis. Donc l'ensevelissement du Christ dans un jardin rappelle l'ensevelissement de nos âmes dans le paradis terrestre que nous avons perdu par la bêtise d'Adam et Ève. Si le Sauveur, dit saint Augustin, est déposé dans un tombeau étranger, c'est parce qu'il était mort pour le salut des autres. Or, le tombeau est la demeure de la mort. Par là aussi, on peut mesurer le degré de la pauvreté acceptée pour nous par le Christ. Alors, le tombeau neuf représente également le sein virginal de la Très Sainte Vierge Marie, dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ a passé 9 mois, du 25 mars au 25 décembre, avant sa naissance. Par la doctrine des apôtres, le Christ est introduit dans le cœur dur des païens, entamé par la prédication, cœur non taillé et nouveau, jadis impénétrable à la grâce, à la crainte de Dieu. Et parce que rien, sauf lui, ne doit plus pénétrer dans notre cœur, une pierre est roulée devant l'entrée. Vous voyez comme les pères, par ce sens mystique, donnent une lumière tout à fait différente à l'Évangile. L'Évangile dit simplement qu'ils fermèrent le tombeau du Christ par une lourde pierre. Eh bien, Saint-Hilaire donne le sens. Donc, là, par la doctrine des apôtres, le Christ est introduit dans le cœur dur des païens, entamé par la prédication, cœur non taillé, nouveau, jadis impénétrable à la crainte de Dieu. Et parce que rien, sauf lui, ne doit plus pénétrer dans notre cœur, une pierre est roulée devant l'entrée. Vous voyez, tout s'élimine et chaque détail de l'Écriture sainte prend sa signification véritable. C'est pour ça que les pères de l'Église ont toujours interprété l'Écriture sainte d'abord à partir du sens mystique qui est tellement méprisé par les modernes. Si vous voulez savoir si un prêtre est imprégné de modernisme, posez-lui cette question. Qu'est-ce que vous pensez du sens spirituel de l'Écriture sainte? Vous allez voir ce qu'il va vous dire. S'il vous dit que c'est ridicule, c'est de la poésie, c'est des choses anciennes des pères de l'Église, que ce n'est plus cru du tout, ni plus enseigné du tout dans les séminaires modernes, vous pouvez être sûr que vous avez devant vous un moderniste. Et donc, Origène précise la même chose, ce n'est point par hasard qu'il est écrit que Joseph d'Arimathie enveloppa le corps du Christ dans un linceul blanc, le déposa dans un sépulcre neuf et roula une grande pierre, car tout ce qui touche au corps du Christ est pur, nouveau et aussi très grand. Alors, dans le sépulcre, la question maintenant est de savoir, est-ce que le corps du Christ s'est décomposé? Est-ce qu'il a vu la corruption de la chair? Réponse, il ne convenait pas au corps du Christ de se corrompre ou d'être réduit en poussière de quelque manière que ce fût. Ce plan naturel, on dit que la décomposition commence à peu près 36 heures après la mort. Bon, ça dépend évidemment beaucoup du climat dans lequel on vivait, la personne vivait. Évidemment, depuis très chaud, la décomposition se fait beaucoup plus rapidement. Mais en général, on dit 36 heures. Or, on voit très bien dans l'étude du Saint-Suaire de Turin, l'étude pathologique qui a été faite après la mort du Christ, on voit très bien que ces cellules ne se sont pas décomposées. Et donc, il a passé moins de 36 heures dans ce linceul. En fait, entre le vendredi saint et la résurrection du Christ, il s'est passé 36 heures, c'est tout. Donc, il ne convenait pas au corps du Christ se corrompre ou d'être réduit en poussière. Pour les hommes, s'ils agissent avec vaillance durant leur vie, leurs actions leur sourient, mais avec leur mort, tout disparaît. Dans le Christ, ce fut tout l'opposé, car avant la croix, tout était triste et faible. Mais dès qu'il a été crucifié, tout devient éclatant. Reconnais donc que ce n'est pas un pur homme qui a été crucifié, ceci un homme lié à la divinité. Il est homme et Dieu, même sur la croix. Alors combien de temps le Christ est-il resté dans le sépulcre? Voilà ce que répond saint Augustin, c'est la question donc 51 du tertiaire pars, article 4. Saint Augustin dit la chose suivante, du soir de la sépulture à l'aube de la résurrection se sont écoulées 36 heures, c'est-à-dire une journée complète entre deux nuits entières. Donc avec cette comptabilité des 36 heures, cela veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts le dimanche de Pâques à 3 heures du matin. On considère qu'il est mort à 3 heures de l'après-midi, à la 9e heure. Il poussa un grand cri et expira à 3 heures de l'après-midi le vendredi saint. de 3h de l'après-midi du vendredi saint à la fin du vendredi saint, il y a 9h, de 15h à 24h. Ensuite, tout le samedi saint, 24h. 24h plus 9, ça fait 33. Et pour arriver à 36, il faut rajouter 3h. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts le dimanche de Pâques à 3h du matin. C'est pour ça que là, je sais que je vais provoquer les ires de certaines personnes en disant cela, mais c'est pour cela que la réforme du pape Pie XII dans les horaires de la Semaine Sainte est, à mon avis, tout à fait raisonnable. Parce que avant, le carême se terminait le samedi saint au matin. Dans la messe le matin, vers 9h, 10h ou 11h, on célébrait la messe de la résurrection. Or, le samedi saint, notre Seigneur Jésus-Christ est encore mort. Il est ressuscité le dimanche au matin. C'est pour ça que le pape Pie XII a introduit avec raison la messe de minuit après la cérémonie de la veillée pascale. Il y a à minuit la messe de la résurrection qui célèbre la résurrection, qui va correspondre plus ou moins à l'heure véritable de la résurrection de notre Seigneur. Et donc avec la comptabilité de Pie XII, du pape Pie XII, eh bien, il est évident à ce moment-là que la fin du carême, c'est le dimanche de Pâques et pas le samedi saint. Le samedi saint reste un jour de grand deuil. Donc, par la mort du Christ, attendez que je vous dise bien tout là. Donc, la mort du Christ, du soir de la sépulture à l'aube de la résurrection, 36 heures, journée complète entre deux nuits entières. Donc, par la mort du Christ, nous sommes libérés d'une double mort, la mort de l'âme et la mort du corps. Ces deux morts sont symbolisées par les deux nuits que le Christ a passées au tombeau. Quant à sa mort, elle ne venait pas du péché, mais elle avait été acceptée par amour. Elle ressemblait donc au jour et non à la nuit. Aussi, elle est symbolisée par le jour complet que le Christ a passé dans le sépulcre. Il convenait donc que le Christ demeura dans le tombeau un jour et deux nuits. Et encore le sens mystique magnifique donné par saint Thomas, qui reprend les pères en fait. Donc, la mort de l'âme est représentée par les deux nuits que le Christ a passées au tombeau. Et alors, je reprends pour ne pas vous dire de bêtises. Et la mort du... je reprends le texte pour ne pas vous dire de bêtises. Donc, il y a une double mort, dit saint Thomas, la mort de l'âme et la mort du corps. Ces deux morts sont symbolisées par les deux nuits que le Christ a passées au tombeau. Donc les deux nuits que le Christ a passées au tombeau représentent la mort de l'âme et la mort du corps. Quant à sa mort, elle ne venait pas du péché, mais elle avait été acceptée par amour et ressemblait donc au jour et non à la nuit. Aussi est-elle symbolisée par le jour complet que le Christ a passé dans le sépulcre. Donc le jour complet représente le fait que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ ne venait pas du péché, c'est pour ça qu'il y a le jour, alors que la mort de l'âme et la mort du corps sont représentées par les deux nuits. Alors, saint Augustin donne des explications intéressantes sur la comptabilité, justement. Voilà ce qu'il dit. C'est la réponse à la première objection. Voilà ce que dit saint Augustin. Certains ignorent le mode de parler des Écritures. Ils ont voulu compter pour une nuit les 3 heures dans lesquelles de sexte à nôle le soleil s'est obscurci, et pour un jour les 3 autres heures durant lesquelles le soleil a été rendu à la terre et de nôle à son coucher. Et ensuite la nuit du samedi. Et si on la compte avant son jour, avec son jour, on obtient comme total deux nuits et deux jours. Au samedi succède la nuit du dimanche, jour où le Seigneur ressuscita. Mais ainsi, on n'obtient pas le compte des 3 jours et des 3 nuits. On ne peut le trouver que si, d'après la manière de parler des Écritures, on admet que tout est compris dans la partie. Il faut donc prendre une nuit et un jour pour un jour naturel. De cette façon, le premier jour comprend la fin du vendredi, où le Christ est mort et est enseveli. Le deuxième jour est entier avec ses 24 heures de nuit et de jour, samedi saint. Quant à la nuit suivante, elle fait partie du troisième jour. Donc les premiers jours du monde étaient comptés de la lumière à la nuit, à cause de la future chute de l'homme. Mais les 3 jours du tombeau sont comptés des ténèbres à la lumière, à cause de la restauration de l'homme. Un texte magnifique de saint Augustin. Voilà que ces explications ne peuvent venir que de Dieu. Je ne dis pas que c'est des textes inspirés, parce que les pères de l'Église ne sont pas inspirés comme l'Écriture sainte, mais quelle tristesse de voir les prêtres modernes, et hélas, même beaucoup de prêtres dans la tradition qui n'ont que mépris pour le sens mystique de l'Évangile, pour tous ceux qui veulent plus savoir sur ce sens caché de l'Écriture sainte, ce qu'on appelle le sens spirituel, le sens mystique de l'Écriture sainte. Je vous conseille d'écouter le cours qui est aussi sur le site internet, donc sur l'exégèse de l'Écriture sainte. Vous avez un cours complet d'exégèse, mais qui n'est pas encore complet. J'ai commencé l'évangile de Saint Matthieu, j'en suis au chapitre 20 de l'évangile de Saint Matthieu. Avec la grâce du bon Dieu, je compte bien couvrir tous les évangiles. Si vous n'avez pas le temps d'écouter tous les cours, parce qu'il y a quand même beaucoup de cours d'exégèse, mais au moins lisez le polycopié général qui est un résumé des enseignements des pères de l'Église sur les évangiles. Voyons maintenant question 52, pardon. La descente du Christ aux enfers. Alors attention, donc il faut bien expliquer les choses. Ces enfers n'ont rien à voir avec l'enfer des démons. L'enfer des démons, c'est l'enfer sans S au singulier. Au pluriel, on utilise le mot enfer au pluriel pour désigner ce qu'on appelle l'enfer des patriarches, c'est-à-dire ce lieu qui a disparu aujourd'hui, dans lequel attendaient tous les justes de l'Ancien Testament. Les justes de l'Ancien Testament, il y en a eu beaucoup. Même d'après la tradition de l'Église, Adam et Ève étaient au ciel, étaient dans ce lieu, pardon, parce qu'ils avaient fait pénitence après leur chute. Mais vous aviez des très grands saints, quelqu'un comme Abraham, comme Moïse, comme Élie, comme Jérémie, comme Ézéchiel, Daniel, etc. étaient des hommes d'une très très haute sainteté qui étaient dans ce lieu, mais ils ne pouvaient pas aller au ciel parce que les portes du ciel étaient fermées depuis la chute d'Adam et Ève. Donc saint Thomas va nous expliquer s'il convenait ou non pour le Christ de descendre aux enfers. Alors, c'est la question 52, article 1, sur la descente du Christ aux enfers. Et voilà ce que dit saint Thomas, ce sont des textes assez faciles. Il convenait, dit-il, que le Christ descende aux enfers, et il va donner plusieurs raisons pour cela. Il en donne trois. Première raison, afin de nous arracher à la peine qu'il était venu supporter. Il cite Isaïe, « En vérité, il a pris nos maladies et porté lui-même nos douleurs. » Deuxième raison pour laquelle le Christ... Il était convenable que le Christ descende aux enfers. Puisqu'il avait vaincu le démon par sa passion, il convenait qu'il aille délivrer ceux que celui-ci détenait captifs en enfer. Et il cite saint Paul aux Colossiens. Dépouillant les principautés et les puissances, il les a emmenés triomphalement. Et enfin, troisième raison pour laquelle il convenait que le Christ descende aux enfers. De même, qu'il avait montré son pouvoir en vivant et en mourant sur terre, il lui convenait de montrer aussi son pouvoir dans les enfers, en les visitant et en y répandant aussi la lumière. Et c'est ce qu'on voit dans le texte de saint Paul aux Philippiens, au nom de Jésus, que tous genoux fléchissent dans les cieux, au ciel et sur la terre, et dans les enfers. Il précise aussi dans les enfers. Donc la passion du Christ, dit saint Thomas, est cause, comme la cause universelle du salut des hommes, tant vivant que mort. On a déjà vu ça. Mais pour appliquer une cause universelle à des effets particuliers, il faut une action spéciale. Au vivant, la vertu de la passion du Christ est appliquée par le moyen des sacrements, sous le sacrement de baptême et après le sacrement de pénitence. Au vivant, la vertu de la passion du Christ est appliquée par le moyen des sacrements qui nous configurent à la... Alors, je répète. Au vivant, la passion de la... Ah, décidément. Je reprends. Au vivant, la vertu de la passion du Christ, pardon, est appliquée par le moyen des sacrements qui nous configurent à la passion du Christ. Au mort, elle est appliquée par la descente du Christ aux enfers. Alors, dans quel enfer le Christ est-il descendu ? Donc, saint Thomas va expliquer, bien sûr qu'il n'y a pas de confusion dans l'âme de ses lecteurs, dans l'esprit de ses lecteurs. Et donc, il va... Il explique bien ce que je viens de vous dire, que le Christ qui est la lumière n'est évidemment pas descendu dans l'enfer des damnés. Bon. Alors, il va expliquer qu'on il va reprendre des choses qu'il a déjà dites au début de la somme de saint Thomas d'Aquin, en précisant que notre Seigneur Jésus-Christ était partout avec, par sa présence, sa puissance et son essence. Par sa présence parce qu'il est partout, par sa puissance parce qu'il peut tout, et par son essence parce qu'il est cause de tout. Il va reprendre ça ici. Donc voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. On peut se trouver dans un lieu de deux manières. D'abord par l'effet qu'on y produit. De cette manière, le Christ est descendu dans chacun des enfers, mais de façon différente. Car dans l'enfer des damnés, il est descendu pour les confondre de leur incrédulité, de leur malice. À ceux qui étaient détenus dans le purgatoire, il a donné l'espoir d'obtenir la gloire. Et quant aux saints patriarches qui étaient retenus dans les enfers à cause du seul péché originel, il leur a donné la lumière de la gloire éternelle. Deuxièmement, par son essence, de cette manière, l'âme du Christ n'est descendue que dans les enfers où les justes étaient retenus, afin de visiter aussi, dans leur lieu même par son âme, ceux qui visitaient intérieurement par sa divinité en leur accordant sa grâce. Donc il a fait, c'est la conclusion de saint Thomas, il a fait rayonner d'une certaine façon son action dans l'enfer entier, de même qu'en souffrant en un seul lieu de la terre, il a libéré par sa passion le monde tout entier. Donc notre Seigneur maintient les damnés en enfer, enfer sans S au singulier, par sa puissance. Et là, dans les enfers avec un S, c'est-à-dire l'enfer des patriarches de l'Ancien Testament qui attendaient la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Seigneur Jésus-Christ va aller avec son âme bienheureuse après la résurrection du Christ. Donc, le Christ, qui est la sagesse de Dieu, a pénétré toutes les parties inférieures de la terre, non pas en les parcourant toutes localement avec son âme, mais en étendant à toutes en quelque sorte l'effet de sa puissance. Néanmoins, il n'a communiqué sa lumière qu'au seul juste. Donc, il précise ensuite, saint Thomas précise qu'il y a deux sortes de douleurs. L'une qui est celle de la peine que souffrent les hommes pour un péché actuel. L'autre est celle qui est causée par le délai de la gloire que l'on espère, une attente au purgatoire, par exemple. En descendant aux enfers, le Christ a mis un terme à ces deux douleurs, mais diversement. Quant à la douleur des peines, il a mis fin en préservant les patriarches comme un médecin coupe court à une maladie dont il préserve par un remède. Quant aux douleurs causées par le retard de la gloire, il en a délivré sur les champs en accordant la gloire aux patriarches. Donc on l'applique et la conclusion, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a littéralement transformé ce lieu de l'enfer des patriarches en paradis par sa seule présence, la présence de son âme bienheureuse. Ce sont des détails, mais qui permettent de mieux comprendre son catéchisme. Et ne pas avoir peur donc d'accepter l'intégralité de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avançons toujours dans ces questions sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Article 3 de la question 52. Le Christ a-t-il été tout entier dans les enfers ? Alors voilà ce qu'il répond saint Augustin. Le Fils était tout entier chez le Père, tout entier dans le ciel, sur la terre, dans le sein de la Vierge, tout entier sur la croix, tout entier en enfer, tout entier dans le paradis, où il a introduit le bon larron. Bon, cependant, on va voir, bien comprendre les distinctions. Notre Seigneur Jésus-Christ est descendu dans les enfers uniquement avec son âme liée à sa divinité, puisque le corps de notre Seigneur est resté au tombeau. Donc le Christ était tout entier partout en raison de sa nature divine. C'est bien ce que précise saint Thomas d'Aquin. Cependant, notre Seigneur Jésus-Christ était aussi, par exemple, dans l'enfer des damnés, dans le sens qu'il y est par sa puissance. Il maintient par sa puissance les damnés dans l'enfer, l'enfer des damnés, l'enfer du démon. Alors, question 52, article 4. Le Christ a-t-il séjourné quelque temps dans les enfers ? Alors, voilà ce qu'il dit. Donc, il a déjà en fait répondu à cette question. Il faut croire que son âme a demeuré dans les enfers juste aussi longtemps, afin que simultanément son âme soit tirée des enfers et son corps du tombeau. Donc, son âme est restée dans les enfers de patriarche pendant 36 heures. Il convenait que son âme demeure dans les enfers aussi longtemps que son corps restait dans le sépulcre. Donc il est bien resté 36 heures dans le tombeau, donc 36 heures dans les enfers. Alors nous allons arrêter là. Nous en sommes donc à l'article 5 de la question 52, que nous verrons, si Dieu veut, vendredi prochain. Le Christ a-t-il délivré des enfers des saints patriarches? Donc il va expliciter ce qu'il a déjà en partie expliqué. Nous terminons par une prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.